5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce lundi 3 décembre, voici le journal de Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Des quartiers de Paris mis à sac et dévastés après un samedi de mobilisation des gilets jaunes, des casseurs se sont invités dans les cortèges. Les dégâts sont particulièrement lourds pour les commerçants. 378 personnes placées en garde à vue. Jamais les services de police n'avaient arrêté autant de personnes en si peu de temps. Les comparutions immédiates vont débuter cet après-midi. Et puis dans cette édition, nous irons en Gironde où les gilets jaunes s'organisent pour durer. Une nouvelle mobilisation est programmée samedi prochain.
Europe 1.
Après 3 semaines de mobilisation des gilets jaunes, la crise a pris une toute autre tournure avec des affrontements samedi à Paris d'une violence inouïe, des émeutes inédites depuis mai 68. Emmanuel Macron, de retour d'Argentine, est allé se recueillir devant l'Arc de Triomphe souillé, puis il s'est rendu avenue Kléber dans le 16e arrondissement de Paris. Voitures brûlées, vitrines brisées, des magasins pillés. Les dégâts sont considérables pour les commerçants qui ont commencé à faire les comptes. Nathalie, restauratrice, est écœurée. Elle a toutefois réussi à sauver la façade de son établissement.
Les gars, ils arrivaient ici, on était debout ici sur l'estrade, et ils arrivaient et je leur disais, s'il vous plaît, ne me cassez pas mon restaurant, s'il vous plaît. C'est honteux ce qui s'est passé, c'est vraiment honteux. C'est désolant. J'espère que M. Macron va faire quelque chose. Il est passé, il a dit qu'il s'arrêterait à tout, il s'est arrêté à un seul restaurant. Il aurait dû venir voir les commerçants, il aurait dû venir demander ce qui se passe. On lui aurait dit vraiment ce qu'il y a, parce que déjà bloqué, il aurait fallu bloquer les portes principales, porte Maillot, porte Dauphine, mais pas faire ce qu'ils ont fait là. Oui, là, ils ont évité l'avenue des Champs-Élysées, mais tout le reste, avenue Victor Hugo. J'ai vu les pillages en direct, j'ai vu les pillages.
En termes de clientèle, de manque à gagner, vous avez chiffré peut-être
j'ai rien fait. 80% en moins de mon chiffre d'affaires.
Nathalie, au micro Europe 1 de Pauline Jacquot. Ce matin à Matignon, le Premier ministre Édouard Philippe va recevoir les chefs de parti représentés au Parlement ainsi que des représentants des Gilets jaunes. Parmi les premiers reçus, Olivier Faure du Parti Socialiste. Il sera d'ailleurs auparavant sur Europe 1 l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h15. Reçu également à Matignon, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen ou encore Benoît Hamon.
Et demain, Christophe Castaner et Laurent Nunez vont devoir aller s'expliquer devant le Sénat.
Oui, le ministre de l'Intérieur sera entendu par la commission des lois sur les moyens mis en place pour faire face à cette crise majeure. Comment les manifestants ont-ils réussi à déjouer les forces de l'ordre? Ils étaient 4000 mobilisés aux alentours des Champs-Élysées. Combien d'émeutiers ont participé à ces violences? Aucune réponse précise fournie par les autorités. Une chose est sûre, c'est que jamais le parquet de Paris n'a eu à gérer un nombre aussi important de gardes à vue. 378 au total. Les services de police et de justice ont dû mettre les bouchées doubles tout le week-end. Marguerite Lefebvre.
Jamais les services de police n'avaient arrêté autant de personnes en si peu de temps. Dès samedi, il a fallu s'organiser, faire appel à tous les commissariats parisiens et ceux de la proche banlieue pour gérer les 378 gardes à vue, s'organiser ensuite au palais de justice pour traiter un à un les dossiers. Le procureur de Paris, Rémy Hetz, a demandé le renfort de plusieurs magistrats.
Tout compris, nous sommes 15. Donc on a multiplié par 3 l'effectif du parquet. Il y a eu beaucoup de volontaires qui se sont proposés et qui devront nous aider encore pendant 2 ou 3 jours parce qu'il va falloir tenir les audiences.
Car les comparutions immédiates débuteront dès cet après-midi, dans 5 chambres au lieu de 3, habituellement. Un dispositif exceptionnel prévu pour 48 heures. Un dispositif qu'est venu constater hier Nicole Belloubet, la ministre de la Justice.
Nous devons d'apporter une réponse pénale extrêmement ferme et c'est évidemment la raison pour laquelle l'ensemble des magistrats sont mobilisés. Les peines encourues, ça dépend évidemment de la nature des infractions qui ont été relevées et de la qualification pénale qui sera donnée. Ça peut aller d'un rappel à la loi à des peines de prison fermes.
Des peines qu'encourront également la quarantaine de mineurs interpellés samedi après-midi.
Marguerite Lefebvre pour Europe 1.
Autre chiffre très élevé, le nombre de blessés, 263 personnes, dont 133 uniquement à Paris.
Oui, il y a des débordements, il y en a eu également dans d'autres villes, à Toulouse ou encore Charleville-Mézières. Le cahier de revendications des Gilets jaunes dépasse désormais largement le seul prix du carburant. Les revendications politiques s'additionnent, se mélangent aux doléances économiques. Certains demandent le rétablissement de l'ISF, d'autres un arrêt de la hausse des charges, des augmentations de salaires ou encore la baisse des loyers. À Sainte-Eulalie, au nord de Bordeaux, des salariés, des retraités, des familles, des étudiants sont bien décidés à rester aussi longtemps qu'il le faudra, comme a pu le constater notre correspondant Stéphane Place.
Dans cette zone commerciale, sur une bande de terre, à la sortie des parkings, les gilets jaunes qui manifestent jour et nuit ont installé un vrai campement, des toiles et des bâches pour se protéger de la pluie et des palettes de bois pour ne pas marcher dans la boue.
Les tentes, bon, on les a mises en place, petit à petit ça s'organise.
Puis on va monter encore une bâche tout le long là où devant on va s'arranger pour qu'on soit les pieds au propre. Les gens nous donnent à manger, en fait, dans les ronds-points on ne demande rien, ils nous donnent du coca, des chocolatines.
Il y a du feu, on discute.
S'il y en a qui veulent dormir 15 minutes, ils vont dans leur voiture, ils dorment un peu.
Qui c'est qui mange là ce soir?
Parmi ces gilets jaunes, beaucoup de retraités, des salariés aussi, et chacun s'organise pour tenir dans la durée.
Moi, vous voyez, je suis là tous les soirs, je travaille et après j'arrive ici.
La première semaine, je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps. J'ai pu négocier avec certains clients de décaler mes chantiers puisque moi je suis menuisier.
Je suis mère au foyer. J'ai des enfants, je viens le matin à 9h et je repars là le soir à 4h30 pour aller chercher à l'école. Et ils manifestent avec nous tous les mercredis et le week-end, ils sont là présents avec nous également. 11 ans, 9 ans et demi et 4 ans.
Des gilets jaunes déterminés et prêts, disent plusieurs d'entre eux, à passer les fêtes de fin d'année sur leur rond-point. Sainte-Eulalie, Stéphane Place, Europe 1.
Et à noter que ce matin, beaucoup de stations-service du Finistère et du Morbihan sont en rupture totale ou partielle de carburant, conséquence du blocage des dépôts pétroliers de Lorient ou encore de Brest. Dans l'actualité également ce matin, ce chiffre 200 milliards de dollars, c'est la somme que va débloquer la Banque mondiale entre 2021 et 2025 pour aider les pays en développement face au changement climatique, annonce juste après le début de la 24e conférence de l'ONU sur le climat en Pologne.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Et Céline, vous ne m'offrez pas votre lune aujourd'hui ?
Pas vraiment.
Pas vraiment, je vois. C'est une offre éphémère. Tant pis.
Pas vraiment.
Il est 6h06, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et aujourd'hui, après les dégradations de l'Arc de Triomphe samedi, Fabrice Dalméda revient sur l'histoire de ce symbole de la patrie française qu'est l'Arc de Triomphe.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Encore une journée pluvieuse et des nuages.
Oui, nuages, pluie et vent, hein, et ça quasiment partout. On aura quand même quelques éclaircies sur la moitié nord auprès de ce vent soutenu. Un ciel orageux pour cet après-midi sur le nord-nord-est. Déjà quelques coups de tonnerre près des frontières du nord pour ce matin. Le soleil lui va briller encore, même s'il sera souvent voilé sur l'extrême sud des Pyrénées jusqu'aux Alpes du Sud. Puis entre les deux, c'est un ciel bien couvert avec des averses et là aussi du vent, surtout cet après-midi. Le tout sous des températures très douces encore aujourd'hui, 8 à 15 degrés. C'est la moyenne pour ce matin, 13 à 17 pour cet après-midi, avec 15 degrés attendus à Paris jusqu'à 21 degrés près de la Méditerranée.
Merci Céline. Eva Rock.
Et oui, un site de voyage a demandé à des internautes si cette fin 2018 était la dernière chance de voyager dans votre vie, quels sont les pays que vous souhaiteriez visiter. On a posé exactement la même question à nos auditeurs et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Jean-Sébastien nous dit « Petit séjour en Suisse où je n'ai jamais posé mes valises afin de mieux connaître les origines de Mathieu Noël. » Et
sûr.
Puis Zanou nous dit « La Finlande pour aller voir le Père Noël. » Évidemment, cette saison.
Ah,
voilà, la Laponie.
Oui, la Laponie. Ah oui.
Vous savez, non, mais il me dit qu'on n'a plus de temps, mais si, quand j'étais petit, j'ai cru longtemps que j'étais allé en Laponie avec l'école, parce qu'il y avait un village lapon, mais en fait, il était reconstitué dans le Jura. Ah. Et longtemps, je disais à tout le monde que j'étais allé en Laponie, mais je n'avais pas compris que je n'avais pas pris l'avion, que ce n'était pas vraiment la Laponie. Voilà une petite anecdote intéressante. Merci à vous, chers auditeurs.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Et voici à présent.
Mais c'est mignon.
Voici à présent. Ça m'humanise, c'est ça que vous voulez dire. Voici à présent celui que j'ai souvent raillé par le passé pour sa taille soi-disant petite et sa force soi-disant inexistante. Quelle révélation donc que ce week-end à la campagne que nous avons passé ensemble. Car oui, Céline, Eva, oui. Samedi après-midi, au Leclerc d'Argentan, nous achetions un fort beau sapin, également fort lourd. Je dis à mon GG, laisse, on va le prendre à plusieurs et on va le mettre dans la voiture. Le temps de me retourner, je vois mon GG empoigner la bête et d'une seule main le coucher dans la voiture. Une force tout simplement.
XXXXXXXXXL.
Exactement. Plus jamais je ne me foutrai de celui que je surnomme désormais l'Hercule d'ici les Moulineaux. Jérôme Lacroix, on passe au journal des sports.
Faut toujours faire cette preuve.
Ben oui, alors là, mon champion, vous m'avez épaté. À la une ce matin, le meilleur footballeur du monde.
Qui sera le Golden Boy de la planète foot ? C'est aujourd'hui qu'est dévoilé le nom du gagnant du Ballon d'Or. Alors bon, les Bleus ont gagné la Coupe du Monde. Est-ce que c'est pour l'un d'entre eux ? L'histoire nous montre que le lien n'est pas du tout automatique. Beaucoup de finalistes côté français, hein, Griezmann, Mbappé, Pogba, Kanté, Varane, mais justement, risque d'éparpillement des voix des votants au profit de qui ? Du Croate, Luka Modric, victorieux l'année dernière de la Ligue des Champions avec le Real Madrid et catalyseur de l'équipe croate au Mondial, battu seulement en finale par la France. Mais pour l'ancien bleu Thierry Henry, aujourd'hui à Monaco, un Français doit l'avoir.
Je trouve que ça serait inadmissible si c'est pas un joueur français. J'ai toujours été frappé comment ça c'est bizarre. Nous en 2000 on gagne l'euro et c'est pas un français qui le gagne aussi. J'avais trouvé ça bizarre. Soyons chauvins, si c'est un français qui gagne, peu importe lequel, c'est bien pour le football français.
Verdict attendu peu après 22h. Pour la première fois depuis 10 ans, du coup, ce ne devrait pas être ni Messi, ni Ronaldo. À noter qu'il y aura aussi le premier ballon d'or féminin qui pourrait bien revenir à une joueuse de Lyon et le prix Copa réservé aux moins de 21 ans qui tend les bras, celui-là, à Kylian Mbappé.
Et le foot ce matin, Jérôme, sont aussi les premiers points perdus par le PSG en Ligue 1.
Voilà, 14 victoires d'affilée et un nul pour la 15e levée. De partout hier soir à Bordeaux. Bravo aux Girondins, deux fois revenus au score après des buts de Mbappé justement et de Neymar. Neymar d'ailleurs sorti sur blessure. Toujours les muscles du haut de la cuisse droite. Les Parisiens restent toutefois largement en tête du championnat. Bordeaux 11e.
Le handball, Jérôme, et les Bleus sont lancés.
Les filles de l'équipe de France, oui, qualifiées pour la deuxième phase de l'Euro en France grâce hier soir à un large succès à Nancy contre les Slovènes 30-21. Et ça a fait du bien après la défaite inaugurale face aux Russes jeudi dernier. La capitaine Siraba Dembélé s'en félicite.
J'ai la sensation qu'il y en a beaucoup qui ont retrouvé de la confiance, de la liberté et ça fait du bien. Et j'aime bien gagner de cette manière.
Des propos recueillis par Christophe Lamar, dernier match du premier tour demain, 21h, France-Monténégro. Un résultat de rugby, large victoire du Stade Toulousain, 49-20 hier face au Stade Français. 11 journées de top 14 et Toulouse 2e, Paris 8e.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
À la mi-journée à Dublin, le patron de l'UEFA va détailler le fonctionnement de la nouvelle Coupe d'Europe, une 3e. C'est officiel depuis tard hier soir, officialisé par l'Europe du foot. Alors on sait déjà qu'elle sera réservée aux clubs des plus petits pays, entrée en vigueur en 2021.
Mais je croyais qu'ils jouaient trop, les joueurs, ils se plaignaient.
Les petites fédérations ont demandé à être mieux représentées. C'est aussi source de revenus.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Allez, mon champion, je vous laisse aller vous restaurer. Il vous faut des sucres lents.
Plat de pâtes, mais au jambon et au ketchup.
Mais au ketchup, si ça vous fait plaisir. Mais écoutez quand même la chronique, c'est historique, de Fabrice Dalméda. Ce matin, après les dégradations subies par l'Arc de Triomphe ce week-end à Paris, Fabrice revient sur l'histoire de ce célébrissime monument.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour.
Alors Fabrice, samedi, on le disait, l'Arc de Triomphe a été sali par des tags et son musée a été saccagé. Dégradé, ce monument a une portée particulière.
L'Arc, c'est le témoin majestueux de notre histoire. Il a été voulu par Napoléon au lendemain de la victoire d'Austerlitz en 1806 pour manifester la grandeur de l'Empire. Mais il a été achevé bien après les défaites de Napoléon et son exil. C'est le roi Louis-Philippe qui l'a inauguré le 29 juillet 1836 en souvenir de sa révolution. Et il voulait aussi honorer l'armée française et ses victoires de 1789 à 1815.
Alors, quels grands événements s'y sont déroulés depuis ?
Parmi tant d'autres, je retiens la veillée du corps de Victor Hugo avant son entrée au Panthéon en 1885, le 14 juillet 1919 avec le défilé de la victoire sous l'arche, l'installation du soldat inconnu bien sûr en 1920 et puis le 11 novembre 1940 quand les lycéens y ont organisé la première grande manifestation de la résistance avant que le 26 août 1944, le général de Gaulle ne s'y rende à son tour.
Et est-ce que celui-là a déjà été endommagé avant dans l'histoire ?
Figurez-vous que oui, deux fois, spectaculairement. En 1871, les révoltés de la Commune l'ont occupé pour défendre la ville contre le gouvernement de Versailles. Ils ont même placé des canons au sommet. Résultat, des tirs versaillais ont abîmé la façade vers l'avenue de la Grande Armée. À la Libération, le 25 août 1944, un obus allemand a explosé à côté et a même endommagé la célèbre Marseillaise de Rude. Le caractère sacré de ce lieu a toujours été admis. Même les nazis l'ont respecté pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on comprend mieux pourquoi les dégradations de ce week-end ont suscité une vive émotion en France et à l'étranger, car ce monument reste l'un des plus visités de notre pays.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, juste avant 6h15.
Europe 1, il est 6h15, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures d'infos rigoureuses, saupoudrées de douce allégresse et parfois de franche mesquinerie. Comme par exemple lorsqu'Eva Rock ose insinuer que sur certains mots, comme par exemple sur le mot mourinx, je prendrai mystérieusement l'accent suisse. Une attaque gratuite, évidemment totalement infondé. Ça fait bien longtemps que j'ai perdu l'accent suisse de bleu.
Qu'est-ce que t'as ? T'arrives pas à dire mourinx sans prendre l'accent suisse ?
Ah bon ?
Prends l'accent suisse à chaque fois, oui.
Mais mourinx, c'est le sud-ouest. J'ai... Notez que François Bayrou est l'invité d'Europe 1 ce matin en direct de Mourinx. De Mourinx.
C'est vrai.
Je ne sais pas ce qui me prend, c'est très étonnant. C'est vrai que c'est bizarre, vous aviez raison. À suivre, le débat sur les gilets jaunes passionne les Français. Mais comment voit-on les gilets jaunes à l'étranger, notamment chez nos voisins allemands ? Élément de réponse avec Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin.
Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Le gouvernement face à une crise majeure, Édouard Philippe va recevoir dès ce matin les chefs de parti représentés au Parlement ainsi que des représentants des manifestants. La commission des lois du Sénat, elle, fait savoir qu'elle entendrait demain les explications de Christophe Castaner et Laurent Nunez sur les violences de samedi. 378 personnes étaient hier soir toujours en garde à vue, dont 33 mineurs. Dans l'actualité également de ce 3 décembre, la 24e conférence de l'ONU sur le climat en Pologne, la Banque mondiale annonce 200 milliards de dollars de financement jusqu'en 2025 pour aider les pays en développement. C'est le double par rapport à la période précédente.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 3 décembre 2018. Et si les gilets jaunes font couler beaucoup d'encre en France, qu'en est-il à l'étranger, chez nos voisins européens et notamment en Allemagne? Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin, merci d'être avec nous. Alors déjà, que disent les journaux allemands ce matin sur les gilets jaunes? Quelle est la place qui leur est réservée dans les journaux allemands?
Alors, c'est une place qui est importante. L'actu en France fait même la une de plusieurs quotidiens. Effectivement, par exemple, avec la photo de la Marianne abîmée dans l'Arc de Triomphe, qui est à la une du Welt et qui a fait un grand reportage en France avec ce titre. La colère semble incontrôlable. En une également du journal de Berlin Tageszeitung, qui nous parle d'une révolte des invisibles en France, quand le Bild Zeitung, le journal tabloïd, se demande tout simplement, est-ce qu'on peut encore se rendre à Paris avec une photo d'un incendie non loin des Champs-Élysées?
Oui, c'est la question que je voulais vous posez, Hélène. Quel est l'angle utilisé par les journalistes en Allemagne? C'est plutôt de la bienveillance à l'égard des gilets jaunes, une compréhension du mouvement, ou plutôt justement, comme vous dites à la fin, est-ce qu'on peut encore aller en France ou est-ce que c'est trop dangereux? Quel est l'angle des journalistes?
Alors pour l'instant, les Allemands cherchent à comprendre avant tout. Donc on peut dire qu'il y a essentiellement des reportages, des analyses. Ça fait à peu près une semaine que le mouvement fait la une ici des journaux. On a eu beaucoup d'émissions en direct pendant le week-end. En fait, cet intérêt important, cette inquiétude s'explique parce que tout simplement, la France, c'est le premier partenaire des Allemands, le premier partenaire économique, ça on le sait, premier partenaire politique, mais aussi dans le cœur des Allemands, c'est aussi le pays avec qui il leur semble impossible de ne pas... Si la France n'est plus là, on ne peut pas faire l'Europe. Ça, c'est une idée qui est partagée vraiment d'une manière très large en Allemagne. Exactement. Et donc, ils se disent, le retour d'une France qui se radicalise, ils avaient eu cette crainte-là déjà pendant la campagne électorale de 2017. La crainte d'une France qui se radicalise, ça les renvoie à une crainte pour eux-mêmes, en fait. Est-ce qu'on pourra encore compter sur ce partenaire qui est absolument vital pour nous? On l'a vu déjà au cours des derniers mois, ils ont perdu leur partenaire américain avec le côté un petit peu instable de la politique américaine sous Donald Trump. Et donc, qu'est-ce qu'on pourra faire de l'Europe si la France se radicalise? Donc là, c'est vraiment une grosse inquiétude. Et en même temps, ils sont un peu schizophrènes, parce qu'en fait, il y avait un petit deal implicite avec Macron quand il est arrivé au pouvoir. C'était « tu réformes en France ». Et puis en échange, on te donne des gages pour faire une politique européenne plus juste, plus agréable pour les citoyens, et notamment avec pour calmer un petit peu cette colère populaire. Or là, pour l'instant, on a des réformes en France, mais du côté de Berlin, il n'y a aucune réponse, avec notamment la volonté, par exemple, de taxer les grands groupes informatiques que peuvent être Google, Amazon, etc. Les Allemands, pour l'instant, disent non aux propositions de Macron.
On a vu apparaître quelques gilets jaunes en Allemagne. À quoi correspond ce mouvement? C'est la même chose?
Alors oui, effectivement, ça fait une semaine qu'il y a une tentative de récupération sur les réseaux sociaux essentiellement. Il y a eu samedi aussi quelques rassemblements, mais très sporadiques ici ou là. Ils étaient 60 hein, à Berlin, donc on est vraiment très loin de ce qui se passe en France. Et puis pour l'instant, contrairement à la France, c'est vraiment un mouvement qui est repris uniquement par l'extrême droite, avec des revendications qui n'ont rien à voir avec la colère française, puisque ce sont des revendications qui se concentrent contre Merkel et sa politique migratoire.
Eva Rock.
Hélène, est-ce qu'il y a déjà eu des mouvements populaires spontanés similaires en Allemagne ces dernières années?
Alors pas du tout, clairement pas. Il faut remonter, je vais le dire, presque à la chute du mur de Berlin il y a 30 ans pour voir un mouvement qui part de la base et qui s'étend dans tout le pays d'une manière comme ça, très large. En revanche, on peut peut-être faire un petit parallèle avec certaines tentatives citoyennes dans l'est de l'Allemagne contre justement cette politique migratoire faite par Berlin depuis 3-4 ans. On a notamment le mouvement Pegida, hein, ce qui est un mouvement citoyen contre l'islamisation de l'Occident, c'est le terme exact. Ce mouvement Pegida, il est né vraiment sur les réseaux sociaux et il se maintient 4 ans après. Alors on est vraiment sur des chiffres très très bas puisqu'ils sont environ 5000, pas plus, à manifester quand il y a des rassemblements. Mais c'est vraiment quelque chose qui se maintient sur la durée grâce aux réseaux sociaux. Et il n'y a ni parti ni syndicat derrière.
Hélène, juste d'un mot pour terminer. En France, on voit que derrière ce mouvement des gilets jaunes, c'est la question du pouvoir d'achat qui se pose, y compris pour les actifs. Est-ce que cette question des petits salaires se pose de la même façon en Allemagne?
Alors, la question du prix du carburant, elle est quand même un petit peu à la une ici parce qu'il est très haut, mais ce n'est pas du tout lié à le résultat d'une politique, en fait. C'est vraiment les fluctuations du marché. Donc, il n'y a pas tellement de cette colère, même si les Allemands scrutent de très près, puisque ça reste un peuple d'automobilistes. Cela dit, l'organisation du territoire allemand avec cette organisation fédérale fait qu'on est moins tributaire de la voiture quand on travaille. On a la possibilité, comme il y a beaucoup de pôles économiques répartis sur le territoire d'une manière beaucoup plus homogène qu'en France, il y a la possibilité, en fait, d'échapper à l'emprise de la voiture. Et on le voit aussi parce que les villes ont essayé dans les différents lenders de développer des lignes régionales de train. Et c'est vrai que cette organisation fédérale du territoire permet, par exemple, aux travailleurs qui habitent en grande périphérie de Stuttgart de circuler avec des trains de petites lignes régionales qui ont été réanimées, j'allais dire, après avoir disparu au cours des dernières années.
Merci beaucoup Hélène Kohl d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes notre correspondante à Berlin.
Europe 1, il est 6h25, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et la douceur aussi.
Mathieu Noël sur Europe 1.
La transmission pour les chefs d'entreprise aujourd'hui de PME, de PMI, c'est quand même quelque chose qui devient vraiment problématique.
Thierry Cousin, ancien dirigeant de CEFAR.
Je pense que ça va être de plus en plus difficile de trouver des acheteurs. Il y a un véritable intérêt à réfléchir à la transmission sous forme de scope. Oui. Il faut que ce soit une véritable volonté. La scope peut permettre de garder du savoir-faire sur place, là où les gens vivent.
Chef d'entreprise, et si vous cédiez à vos salariés ? Visitez le site jetransmetsamessalariés.fr. Et si on parlait Renault Occasion ?
Chérie, montre à Martin nos photos de vacances.
Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud.
Ça a l'air beau, ce village. Enfin, derrière votre Clio.
Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion.
Ah oui, on peut pas la rater, là.
Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr.
Salut Ludo, t'es en pleine forme ? Je t'ai jamais vu comme ça. À quoi tu carbures ?
À Capifrance.
Ah oui, le réseau de conseillers immobiliers indépendants. Vas-y, raconte.
Je me suis reconverti chez Capifrance. J'ai suivi tout le parcours de formation et je suis accompagné de façon régulière. En fait, je suis indépendant mais jamais seul. Et en plus, je gagne très bien ma vie.
Ça a l'air génial.
Toi aussi, saisis ta chance, contacte-les.
Vous aussi, vous voulez rejoindre Capifrance ? Rendez-vous sur recrutement.capifrance.fr et profitez en ce moment de l'offre démarrage booster.
Capifrance, mon réseau, mon business, ma réussite.
Noroto.
C'est bon pour les niveaux de la voiture ?
Ah oui, c'est même super bon !
Enfin, t'emballes pas quand même, t'as juste remis de l'huile.
Oui, mais à prix Noroto.
Noroto a déjà baissé le prix de 5000 produits. Comme l'huile Total Activa 9000 5W40, maintenant à seulement 32,95€ les 5 litres. Parce que c'est bon de ne pas mettre tout son argent dans sa voiture.
Il est pas trop fort ton champion ?
Oui, c'est mon champion.
Alors.
Noroto.
Conditions sur noroto.fr.
Il est 6h27, Mathieu Noël.
Avant de retrouver le journal de 6h30, voici la météo de Céline Dacosta. Mmh. Céline, une journée pluvieuse avec du vent, me disiez-vous, mais aussi un petit peu de soleil.
Oui, entre les Pyrénées et les Alpes du Sud, un soleil voilé mais bien présent et ça toute la journée. On aura également quelques éclaircies en montant dans la vallée du Rhône cet après-midi, puis du soleil pour la Corse. Plus au nord, entre la Bretagne, l'Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, là c'est un ciel mitigé, nuages, quelques timides éclaircies, des averses du vent et quelques coups de tonnerre près des frontières du nord pour ce matin. Un temps orageux qui va gagner quasiment toute la moitié nord cet après-midi. Entre les deux, c'est un temps maussade, ciel couvert avec des averses et là aussi un vent soutenu cet après-midi, des rafales jusqu'à 70 km. À l'heure.
Un mot des températures ?
Elle reste très douce pour la saison. Cet après-midi, 13 degrés au Havre, à Aurillac, 14 à Rouen, 15 degrés à Caen, à Paris ou encore à Lyon, 16 degrés à Clermont-Ferrand, 17 à Bordeaux, 18 à Toulouse, 20 degrés à Toulon et même 21 à Perpignan. Et puis ce matin, c'est déjà très doux, 8 à 15 degrés avec 14 degrés à Paris.
Merci Céline, restez avec nous dans une minute, le journal de 6h30.
Question épargne, la Caisse d'épargne vous répond.
Julien Daucher, vous êtes responsable de l'optimisation des solutions financières pour les caisses d'épargne. Pour le client qui veut gérer lui-même ses placements, vous proposez trois niveaux d'accompagnement. Lesquels ?
Alors, dans un premier niveau d'accompagnement, nous partageons avec le client notre analyse des marchés financiers et nos recommandations, en l'informant régulièrement. Le deuxième niveau d'accompagnement donne accès au savoir-faire de nos sociétés de gestion spécialisées. Cette variété d'expertise peut permettre au client de se constituer un patrimoine, soit diversifié, soit au contraire très concentré, en fonction de ses choix. Enfin, troisième niveau d'accompagnement, nous mettons à disposition du client un ensemble de portefeuilles ajustés, qui sont des solutions d'investissement combinant plusieurs fonds, et destinés à financer un projet de vie, comme les études de ses enfants, ou préparer sa retraite.
Pour bien choisir ses placements, il faut être bien accompagné. Découvrez le nouveau parcours épargne personnalisé en prenant rendez-vous avec un conseiller Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, vous être utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital.
Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos allégées en morosité et enrichies en éclats de rire avec parfois même de très gros copeaux, comme lorsque par exemple Eva Rock et Céline Dacosta reprennent en yaourt et sous Tranxène 1000 mg, un des plus grands tubes de Simon et Garfunkel.
Take your land, help yourself. Aussi à sympathetic ice.
Qu'est-ce que vous racontez? Je vous enverrai les paroles. À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques vous livreront évidemment leur analyse de la situation des gilets jaunes. Axel de Tarlet nous expliquera également comment au G20, le tandem Chine-États-Unis incite les membres de l'Union européenne à se serrer les coudes.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
La France se réveille ce matin dans un état de sidération. 263 personnes ont été blessées ce week-end. Des scènes d'émeutes à Paris, mais aussi en région. Et des symboles, la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe a été profanée. Comment Emmanuel Macron va-t-il se sortir de cette crise? Le voilà contraint d'avoir recours aux forces de l'ancien monde. Les partis politiques seront reçus toute la journée à Matignon par le Premier ministre. Le président a aussi demandé à Édouard Philippe de recevoir des représentants des Gilets jaunes, sauf que le mouvement refuse de se structurer. Les protestataires ne veulent pas de leader, mais sur chaque rond-point, ils s'organisent pour faire durer leur action.
Europe 1.
C'est sans doute l'une des images les plus frappantes. L'Arc de Triomphe à Paris a été saccagé samedi, recouvert de tags à l'extérieur, mis à sac à l'intérieur. Et au plus fort du chaos, alors que les affrontements faisaient rage avec les CRS, la tombe du soldat inconnu a été profanée. Alors, il était indispensable pour les autorités que la cérémonie quotidienne de ravivage de la flamme ait bien lieu hier soir, comme chaque jour, pour marquer le coup. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, était là, ainsi que la secrétaire d'État Geneviève Darrieussecq. On l'écoute.
C'est le symbole de la nation, la flamme de la nation qui est sous cet arc de triomphe. Donc pour moi, l'arc de triomphe est un symbole fort de la France et c'était s'attaquer à la France. Ces gens-là veulent le chaos. Je dis aux personnes qui sont en colère que je comprends les demandes, je comprends qu'ils expriment des demandes urgentes. Mais tout cela ne pourra se passer que par une action politique, pas par la violence et le chaos.
Geneviève Darrieussecq au micro européen de Rémi Bostsaron. La journée sera marquée par le défilé des chefs de parti à Matignon. Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, mais aussi les communistes, les écologistes, les centristes, les radicaux. Bref, à la demande d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe reçoit toutes les forces de l'ancien monde. Comme si les marcheurs se rendaient compte tout d'un coup que les syndicats ou les partis politiques pouvaient avoir une utilité. Le chef de l'État a aussi demandé à son Premier ministre de recevoir les gilets jaunes, mais à ce stade, aucun rendez-vous n'est encore fixé. On se souvient du fiasco de vendredi. C'est très difficile d'organiser un dialogue avec un mouvement qui refuse d'élire ou de nommer des leaders. Ce qui est certain, en revanche, c'est que sur le terrain, les protestataires sont déterminés à continuer à chaque point, à chaque rond-point, sur chaque péage. Les gilets jaunes s'organisent. Par exemple, à Thonon, en Haute-Savoie, ils sont installés à un croisement depuis le 17 novembre qu'ils ont eux-mêmes baptisé le village des irréductibles gaulois. Reportage Rémi Pierre.
Assis sur un banc devant un petit brasero, sous un abri de bois et de toile, Robert garde un œil sur son poulailler, un coq et deux poules qu'il a ramené il y a quelques jours. À 67 ans, cet ancien boucher qui n'arrive pas à joindre les deux bouts avec 1080 euros de retraite est là au quotidien.
J'arrive à 6h du matin, on remet le village en ordre, je balaye le caniveau pour pas y être saleté, je remets la signalisation en place, on boit un café, un petit croissant ou un pain au chocolat. Et ici, on a fait une convivialité formidable.
Une convivialité qu'apprécie aussi Vanda, cette septuagénaire toujours souriante. Sous son bonnet de lutin du Père Noël, ne passe pas seulement ses journées ici.
J'ai passé une nuit aussi, extraordinaire. Non, j'ai pas dormi. Ah non, non, on n'a pas dormi, on s'occupait du feu, on était quelques personnes, quoi.
Vous êtes prête à revenir ici pendant longtemps, tous les jours?
Tous les jours, ah oui, oui. Jusqu'à l'année prochaine, là, je fais Noël là, ça me dérange pas. Hein. J'apporterai la dinde et des bûches de Noël, que je fais moi.
Une détermination partagée par Georges, 71 ans, ancien charpentier qui vit avec 900 euros par mois.
Bon, on va faire le siège, j'ai tout mon temps, je peux rester ici jusqu'à Pâques s'il faut. Non, non, on cédera pas, de toute façon, je pense qu'il cédera avant qu'on cède. Hein.
Et Georges est tellement présent ici que pour le voir, sa compagne est obligée de venir au village gaulois. À Margencel, Rémi Pierre, Europe 1.
Ajoutons à tout cela une question. Le président de la République va-t-il parler ? Il n'a rien dit depuis son retour d'Argentine. Ils sont nombreux, y compris dans sa majorité, à attendre de lui une expression solennelle. À ce stade, aucune prise de parole d'Emmanuel Macron n'est prévue.
Europe 1, il est 6h34.
Commencera tout à l'heure le premier procès dans l'affaire du Levothyrox. Cela se passe à Villeurbanne, près de Lyon. Plus de 4000 patients attaquent le laboratoire Merck qui lui reproche un défaut d'information au moment du changement de formule au printemps 2017. C'est un procès hors norme qui débute, Jean-Luc Boujon. Et il a fallu le délocaliser en dehors du palais de justice de Lyon.
Oui, parce que tout à l'heure, ce sont plus de 300 victimes, hein, peut-être même 400 qui seront présentes à ce procès. Impossible donc de les accueillir correctement dans les locaux exigus du tribunal de Lyon, qui va donc se déplacer dans une salle, le double mixte à Villeurbanne, qui en temps normal est plutôt connu pour ses concerts ou ses salons, mais qui surtout peut recevoir 500 personnes, hein, sachant que les médias accrédités sont également très nombreux. C'est le ministère de la Justice qui a pris la décision de louer cette salle pour la journée, constatant l'ampleur des plaintes contre Merck, 4113 plaignants qui accusent le laboratoire allemand de défaut d'information au moment de la commercialisation de la nouvelle formule du Levothyrox. L'avocat des victimes réclame au labo une indemnité forfaitaire de 10 000 euros par patient, ce qui, s'il était suivi par le tribunal, représenterait une somme totale de plus de 41 millions d'euros. L'enjeu est donc colossal pour Merck, qui lui se défend en assurant qu'il a parfaitement fait son travail en envoyant en amont plus de 300 000 communications par courrier, fax et mail à 100 000 médecins et pharmaciens en France.
Merci Jean-Luc Boujon pour ces informations.
À suivre dans ce journal, 200 pays se réunissent à partir d'aujourd'hui en Pologne pour parler climat et essayer de relancer l'accord de Paris. Europe 1 sera dans les coulisses de la délégation française.
Europe 1, il est 6h36. Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, c'est la COP24 en Pologne.
Oui, à Katowice précisément, 200 pays se réunissent pour tenter de relancer l'accord de Paris sur le climat. Notre spécialiste des questions environnementales, Laure d'Autriche, nous dit tout de la stratégie française dans ce sommet international.
Les négociateurs français arrivent en Pologne en nombre. Une soixantaine d'experts techniques qui vont discuter chaque mot, chaque virgule. Cela semble superficiel et pourtant c'est bien cela qui bloque les négociations. Un dortoir est même aménagé dans le centre de conférence. Pendant cette COP24, ils devront adopter des règles qui diront comment chaque pays rendra compte de ses efforts pour limiter le réchauffement climatique. Et les négociateurs français vont se livrer à un bras de fer, explique Laurent Fabius, qui était le président de la COP21 il y a 3 ans.
Les négociateurs techniciens qui ont du mal à surmonter leur division, parce qu'eux, ils sont là pour défendre les positions spécifiques. Mon souvenir, c'est que lorsque on dormait 2 heures, on était censé avoir fait la grasse matinée.
De salle en salle, à travers des rendez-vous informels, une diplomatie parallèle va aussi se mettre en place pour nouer habilement un contact avec des pays qui seraient tentés de freiner des quatre fers. Cette année, le Brésil, les États-Unis ou encore les Philippines seront particulièrement suivis du regard.
Laure d'Autriche pour Europe 1.
Le Paris Saint-Germain survole le championnat de France de Ligue 1, mais David, même les plus grands, même les géants peuvent parfois, parce qu'ils sont des hommes, redescendre l'espace d'un instant au niveau des simples mortels.
Oui, alors je dirais les choses plus simplement, parce que vous en faites vraiment, vous en faites vraiment des caisses.
Je rappelle que les lancements sont écrits par les journalistes.
Les Parisiens avaient gagné 14 fois en 14 journées. Et hier soir, pour la première fois, ils ont été contraints au match nul à Bordeaux, 2-2. Et en plus, Neymar s'est blessé, compte rendu Simon Rubin.
Neymar claudiquant au moment de quitter le stade, c'est l'image marquante de la soirée. Le Brésilien grimace en montant dans le bus. Hier, non seulement le PSG a été accroché, une grande première en championnat, mais il a peut-être perdu son leader sur blessure. Son coéquipier Marquinhos ne cachait pas son inquiétude.
Il a senti à peu près un peu la même chose qu'il a senti avant le match de Liverpool. On verra après les examens. Je pense que le doc va pouvoir vous donner plus d'informations. Et on verra, il faut lui donner un petit peu de temps parce qu'on a des échanges importants qui vont venir, on a besoin de lui.
Au club, on s'inquiète surtout pour les adducteurs de Neymar, déjà touchés tout récemment. Mais au-delà du cas particulier, Neymar symbolise cette fragilité retrouvée des Parisiens. Hier, Paris, comme sa star, a laissé voir des failles. Un message qu'il n'est jamais bon d'envoyer, surtout à 8 jours d'un match décisif à Belgrade en Coupe d'Europe. Bordeaux, Simon Rubin, Europe 1.
Et quant à l'Olympique de Marseille, il a raté une occasion au stade Vélodrome, incapable de marquer contre Reims. Score final 0-0, l'OM reste reste bloqué à la 5e place au classement.
Était-ce nécessaire d'ajouter cette petite information en fin de journal? Je ne sais pas, David. C'était le journal de David Doucan. David qui, disons les choses, a un petit faible pour Céline Dacosta. Ce qu'il préfère chez elle, son humour.
Ils ont perdu 26-23 face à la Russie. Et écoutez, Olivier Krumbholz, il reste malgré tout serein.
Krumbholz à quoi? La pomme?
Ça doit être ça qui vous séduit chez elle.
J'ai vraiment aimé cette blague.
Évidemment, très bonne blague. Passons à la météo avec la reine du LOL.
Non, jamais.
Céline, quel temps pour la France aujourd'hui? C'est couvert, c'est pluvieux, il y a du vent.
Oui, c'est vrai, vous avez tout dit. Merci.
Voilà, merci Céline.
Du vent qui sera soutenu cet après-midi sur tout le pays. Plus calme entre les Pyrénées et les Alpes du Sud, où là le soleil va briller mais sera souvent voilé. On va retrouver de bonnes rafales de vent également sur les côtes varoises et les caps corses. Le ciel sera souvent nuageux avec des averses. On aura encore quelques éclaircies timides sur la moitié nord. Et puis il deviendra orageux ce ciel sur le nord-nord-est dans l'après-midi. Quant aux températures, toujours beaucoup de douceur pour la saison. 13 à 16 degrés, ça c'est la moyenne cet après-midi pour la moitié nord. 14 à 19 pour la moitié sud, jusqu'à 21 degrés attendus à Perpignan.
Merci Céline Dacosta.
Il est 6h41, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui prend l'info au sérieux sans jamais se prendre au sérieux. Et pourtant, vu le pédigré universitaire de certains, comme Céline Dacosta, diplômée, je le rappelle, de la Polytechnic School of Porto, qui depuis jeudi dernier est restée bloquée sur ce lancement que lui avait écrit notre producteur exécutif Sébastien Bordenave. Lui voulait juste faire une vanne. On sent que c'est devenu pour Céline une véritable question existentielle.
On croise les doigts pour vous et le reste également.
Mais c'est vrai, tu croises quoi par les doigts? Franchement, tu peux rien croiser à part les doigts. Eva,
les cheveux, les orteils.
Oui, les orteils, ça reste des doigts.
Les orteils, ça reste des doigts. Et le festival des grands esprits continue sur Europe 1, puisque dans quelques minutes, nous serons assis autour de cette table avec les trois fantastiques, et notamment cette question politique suite aux nouvelles mobilisations des Gilets jaunes ce week-end. Rencontrer les opposants politiques va-t-il suffire pour sortir de la crise?
Il est 6h45, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Les partis politiques sont reçus toute la journée à Matignon. Emmanuel Macron a aussi demandé à son Premier ministre d'instaurer le dialogue avec une délégation de Gilets jaunes. Mais Édouard Philippe peine sur ce point à trouver des interlocuteurs. Alors que la transition écologique se fracasse depuis 3 semaines sur la question du pouvoir d'achat, la France participe à partir d'aujourd'hui à la COP24 en Pologne. 200 pays se réunissent avec pour objectif de relancer l'accord de Paris, très affaibli par le départ des États-Unis. Enfin, un petit mot de foot. Pour la première fois de la saison, le Paris Saint-Germain a été neutralisé. Un match nul de partout hier soir à Bordeaux, qui met un coup d'arrêt à une série de 14 victoires en 14 journées.
Europe 1.
6h45, ils sont de retour après un week-end réparateur où les plus mélomanes d'entre eux se sont illustrés lors de karaoké entre habits.
Bless you please, Mrs. Robinson.
Oui, on peut picoler aussi pour certains, toujours avec modération, on embrasse Eva Rock. Voici les trois fantastiques. Eva donc pour les médias, Axel de Tarlé pour l'économie, Aurélie Herbemont pour la politique. Aurélie, je vous présente Axel de Tarlé, dit Axelou la combine, un dauphin d'or très prompt à tricher. Écoutez, c'était vendredi et je signalais simplement à Axel que son texte était imprimé trop petit pour moi, sachant que je suis mis. L'occasion de découvrir en fait sa martingale pour qu'on ne lui reproche pas de faire trop long.
Tu devrais faire encore plus petit, Axel. Hein.
Mais on m'a dit que c'était trop long encore.
Non, plus petit. Oh, la police.
Ah, d'accord. Ben pour montrer que c'est pas long, je joue sur la police de caractère.
Il est rusé, mais comme un sioux. On va commencer par la politique avec vous plutôt, Aurélie. Alors, l'exécutif essaye de reprendre la main après ce week-end pour le moins compliqué. Le chef de l'État est silencieux depuis son retour d'Argentine, mais il a missionné son Premier ministre pour recevoir des Gilets jaunes, prêts au dialogue, et les chefs de parti. Mais rencontrer les opposants politiques, est-ce que ça suffit pour sortir de la crise?
Ah, clairement pas, Mathieu, mais un ministre me le confiait. L'exécutif est comme une poule face à un couteau, sans trop savoir comment sortir de la crise. Alors recevoir les partis politiques qui réclament une dissolution, un référendum, ça n'a absolument rien d'une baguette magique. C'est une tentative pour faire redescendre la pression politique et une façon de mettre chacun face à ses responsabilités. Le gouvernement le martèle, la crise qui nous éclate à la figure résulte des 30 dernières années. Qui était au pouvoir ces 30 dernières années, le PS et la droite. De là à y voir une volonté de partager le mystique gris, il n'y a qu'un pas que franchit ce dirigeant LR, partagé sur ces fameux rendez-vous à Matignon. Ils essayent de mettre tous les partis dans le même sac, pas sûr que ce soit bon pour nous. L'ironie de l'histoire, c'est qu'Emmanuel Macron voulait plus ou moins détruire les partis politiques traditionnels. Aujourd'hui, il appelle l'ancien monde à la rescousse.
Mais en même temps, est-ce que les partis politiques ont un impact sur les Gilets jaunes?
Pas franchement. Le Rassemblement National, les Insoumis, les Républicains ont des électeurs chez les Gilets jaunes. Mais aucun parti ne maîtrise le mouvement, pas plus que les syndicats. On est face à une vraie crise de la représentativité. Les Gilets jaunes ne se reconnaissent derrière aucun leader. pas même entre eux, ce qui complique sérieusement la donne.
Merci beaucoup Aurélie Herbemont pour cet éclairage politique. On passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlé. Les 20 plus grands chefs d'État étaient ce week-end en Argentine pour le G20. Un seul constat, hein, les Européens ont complètement disparu des radars.
Voilà, et donc il y avait Emmanuel Macron qui était à ce G20 de Buenos Aires ce week-end en Argentine. Le G20 donc, qui rassemble les 20 plus grandes économies du monde. Comme on s'en doute, ce genre de réunion où on est 20 autour d'une table n'est pas tellement du goût de Donald Trump. Vous savez qu'il préfère le bilatéral. Hein,
quand que on le est... multilatéral.
Voilà, quand on est deux. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Le G20, finalement, s'est transformé ce week-end en un G2. Ben oui, parce qu'on a retenu qu'une seule chose. Regardez la façon dont la presse couvre cet événement. On a retenu qu'une seule chose. Le dîner, samedi soir, entre les deux superpuissances, à savoir Donald Trump versus Xi Jinping. Vous voyez, c'est triste parce que ce G20, à l'origine, le G20 avait été inventé par les Français. C'était Valéry Giscard, on était 6 au début. C'était Valéry Giscard d'Estaing en 75. Aujourd'hui, c'est devenu un G20. Bah, il n'y a plus que Américains et Chinois. Et les 18 autres font de la figuration, dont les Européens. Voilà.
Et ça veut dire que ce genre de réunion ne sert plus à rien, Axel ? Qu'il ne faut plus y aller ?
Alors si, parce que finalement, rien de tel qu'un voyage au bout du monde pour réaliser qu'on s'aime. Figurez-vous que les Européens à Buenos Aires se sont rendus compte qu'ils faisaient tapisserie. Eh bien, que s'est-il passé ? Les Européens ont dit, eh bien maintenant, on va faire bloc. Et c'est ce que rapportent aujourd'hui toutes les délégations européennes. Disaient, sur tous les sujets extérieurs, on se concertait et on parlait d'une seule et même voix. Et figurez-vous qu'à un moment, c'était Emmanuel Macron qui devait ouvrir la session sur le commerce. Il a donné la parole à Jean-Claude Juncker en disant « Vous allez parler non pas au nom de la France, mais au nom de toute l'Europe. » Vous voyez quelque part, ce week-end à Buenos Aires, une petite flamme bleue bien vivace s'est allumée.
Il arrive à introduire de l'émotion dans les chroniques économiques.
En parlant de l'Union Européenne.
En parlant de l'Union Européenne et de Jean-Claude Juncker. C'est vraiment un exploit, un prodige. Bravo notre dauphin d'or, Axel de Tarlé.
Et
Baroque, faites-nous rêver. Vous nous parlez télévision. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télé ?
Oui, l'histoire continue avec Céline Cousteau. C'est sur France 3 à 21h. Il y a 45 ans, le long des côtes de Patagonie, c'est le commandant Cousteau qui filmait les baleines bleues. Et bien 45 ans plus tard, c'est sa petite fille qui revient sur ces lieux pour faire le point sur l'évolution de l'écosystème, alors en mer et sur terre. Un périple de 5 semaines qui a été marqué par de multiples rencontres avec des scientifiques comme Rodrigo, qui étudie les mammifères marins depuis des années, à commencer par ces fameuses baleines bleues, des monstres des mers. Il suffit d'écouter ce qu'ils racontent au sujet de leur taille.
On voit bien l'échelle. Par exemple, si on compare à un éléphant, une langue de baleine pèse l'équivalent de 5 éléphants.
5 ?
Oui, 5 éléphants. Tout est hors norme chez cet animal.
Même les dinosaures ne peuvent pas rivaliser. Il n'y a jamais eu plus gros animal sur Terre.
Alors, il ne reste que 5000 baleines bleues dans le monde. Et non, c'est
quand
la baleine bleue qui est la plus grande. 5000 baleines bleues restent dans le monde, des animaux majestueux qu'il faut absolument sauvegarder. Alors, à quelques kilomètres de là, Céline Cousteau, elle décide de faire une expédition dans les glaciers pour constater leur fonte. Juste avant d'entamer son ascension, il y a un bruit effrayant qui se fait entendre.
L'énorme va partir.
Oh là, oh là là, aïe, aïe, aïe,
regarde la vague. Devant la plage là.
Des pans entiers du glacier qui s'effondrent devant elle et des vagues telles un tsunami qui viennent s'écraser sur les rochers. Alors à l'instar de cette séquence spectaculaire, eh bien le documentaire mérite le détour, notamment par les images dont beaucoup sont filmées par drone. Ça a révolutionné vraiment les documentaires scientifiques. La réalisation est d'ailleurs le point fort de ce film, ainsi que les experts qui interviennent dans le film. En revanche, je regrette un peu le côté scolaire de la narration en fait, et puis la voix off qui est très présente et qui est un peu récitante. Voilà.
Un petit bémol,
mais c'est à voir sur France 3 à 21h.
Merci beaucoup Eva Rock, merci Aurélie Herbemont, Axel de Tarlé. Les trois fantastiques seront de retour demain avant 7h moins le quart.
Il est 6h51, Mathieu Noël.
Debout les copains touche à son terme. Heureusement, les aficionados le savent, le meilleur est à venir puisque je l'aperçois derrière la vitre du studio. Et non, Céline, je ne pense pas que ce soit le sosie de Nico Céleste. Il y a de fortes chances que ce soit le vrai, Céline.
Ah, bien. Il est 6h54, Mathieu Noël.
Debout les copains s'achève, mais vous le savez, le meilleur est à venir. Et moi, de ce point de vue-là, je suis comme Hélène Zellani. J'aime
vivre pour le meilleur.
Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas, ou plutôt, comme on l'appelle désormais en interne depuis qu'il enchaîne les délocs, Nikos Alibis. Mon cher Nikos, vous étiez effectivement vendredi en direct de Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques. L'occasion pour vous de prendre le pouls de cette France qui trime et également de découvrir pour la première fois le charme discret de l'hôtel Ibis. Un hôtel dépourvu de room service et d'isolation phonique entre les chambres.
Qu'est-ce que c'est que ce boucan ?
Ah, probablement Laurent Cabrol et une amie mourinxoise. Ah, joie des délocs. Laurent Cabrol qui ne cesse de nous étonner semaine après semaine et d'ajouter au panel déjà très complet de ses compétences de nouvelles fonctionnalités, alors certes pas très utiles en radio, mais toujours assez bluffantes, comme par exemple le mime.
Les températures ce matin, pour ceux qui n'ont pas encore mis le nez dehors, 3 à Colmar.
Vous mimez le nez.
Laurent Cabrol qui a en outre développé avec Nikos Aliagas une complicité assez exceptionnelle. C'est vraiment la rencontre de deux entertainers à l'américaine. Un esprit Broadway appliqué à la météo française, tout pour le show.
Faites-moi rêver, monsieur Cabrol, ce matin. Les gens se réveillent, ils s'habillent, ils font quoi ?
Ils vont au boulot.
Ok, merci d'être venu, bonne journée.
Ah là là, showman. Jusqu'au bout, enfin, avec mon ami Nikos, nous demandons ce matin un moratoire sur la chronique innovation de jeudi dernier. Chronique dite de la voiture à carrosserie transparente qu'on n'a rien compris.
Oui.
Notez que déjà en amont, au moment du teasing, Nikos avait pressenti qu'on n'allait rien y comprendre.
Vous allez voir, chers auditeurs, vous allez plutôt entendre, et Céline Dacosta aussi, que nous allons découvrir des voitures aux carrosseries transparentes. À quoi ça sert ? Je ne sais pas.
Non, on ne savait pas, mais tout serait certainement beaucoup plus clair après la chronique de notre expert innovation, Anissem Bida. Ou pas.
Vous allez nous parler de voitures qui ont une carrosserie transparente pour avoir plus de visibilité pendant les manœuvres, mais je ne comprends pas le concept.
Eh bien, on reprend le principe de la caméra de recul, mais on la met plus haut et on renvoie l'image directement sur le rétroviseur intérieur. On filme en grand angle, qui est en fait un écran, et du coup, on a l'impression que tout l'arrière de la voiture est totalement transparent.
Anissem Bida, l'innovation pour y voir plus clair. Ça marche aussi sur les côtés ?
Ça marche aussi sur les côtés. Cette phrase nous trahit. Parce que vous disiez d'accord, c'est
j'ai
bon.
Rien compris,
vous avez compris. Mais la question, est-ce que ça marche sur les côtés, prouve qu'on n'a rien compris au système. Il reviendra et nous l'expliquera mieux la prochaine fois.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec vous, on comprend tout.
On comprend encore plus mal, je pense.
Non, vous nous annoncez la couleur. La couleur est très claire pour commencer la semaine. Merci beaucoup, Mathieu Noël. Merci, Eva Rock.